Première lettre de Pierre, première épître de Pierre. Alors on va lire du verset 13 jusqu'au chapitre 2, verset 10. Une longue lecture donc. Je vais lire dans la version seconde 21. C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfin obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi je suis saint. Et si c'est comme un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Verset 18. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'or ou l'argent que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmis vos ancêtres. Mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans le dernier temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et de toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. » Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par eux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole. Et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Oui Seigneur, merci pour cette lettre que le Saint-Esprit a inspirée à Pierre. Merci qu'elle puisse nous communiquer son souffle maintenant et que nous puissions être béni à travers elle. Nous te demandons cela dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Alors sur les films, vous avez peut-être vu, on le voit moins souvent qu'avant, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé ne serait que fortuite. Vous avez déjà vu ça?
Ouais.
Alors, j'ai une précision à faire. Le choix de l'épître, la première épître de Pierre a été décidé par des frères de Toulouse et d'Albi. C'était déjà au mois de septembre dernier ou même peut-être avant. Et ils ont décidé cela dans le cadre d'une formation Prêche la parole. Patrick et moi, on a le privilège de pouvoir profiter. Et donc, il y a un programme pour l'année. Et donc, cette année, c'était la première épître de Pierre. Et il y a des dates limites pour rendre le travail. Et donc, là, on va passer sur le grill le 2 juin, le vendredi 2 juin, où on présente notre travail. Et puis, les frères qui sont là, expérimentés, nous disent « Ah, là, t'aurais pu faire ça » ou « Ça, j'avais pas bien compris » ou « Ça, c'est bien ». Voilà. Et donc, c'était une vraie bénédiction pour notre Église. Donc tout ça pour dire que le message donné aujourd'hui n'a pas de rapport avec ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Le titre, alors j'attire peut-être vous, mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 semaines? Ça c'est pour vous, gardez, éveillez votre attention en fait. Le titre, vivre maintenant un enfant de Dieu et un peuple de Dieu. Alors, voyons un peu le contexte de notre lettre que nous avons lue. Pierre a écrit à des chrétiens comme nous, ou presque comme nous. C'était des frères et sœurs qui étaient dispersés un petit peu. Patrick nous a parlé de ça la semaine dernière, des églises naissantes qui avaient besoin d'un ancrage. En particulier par rapport au judaïsme. Et nous aussi, nous sommes pas nombreux, nous sommes dispersés. Nous sommes ballottés dans la société à subir des choses qu'on ne voudrait pas, à vouloir être conduits dans des endroits où on ne veut pas aller, inondés d'enseignements. Et nous aussi, on a besoin d'ancrage, de recadrage. On a besoin de rafraîchir notre espérance, comme eux, je pense. Et là, donc, nous avons une épître pastorale. L'apôtre Pierre, c'est le pasteur par excellence. Et il utilise une communication circulaire. C'est-à-dire que c'est pas un raisonnement suivi cartésien comme on a l'habitude de les suivre nous autres. Alors au premier abord, ça peut sembler un peu décousu. Il y a des répétitions, il revient sur des thèmes, mais il a en fait un enseignement qui est très très riche et qu'il va pouvoir être compris par des débutants même dans la foi. Donc on avait vu cela à l'époque dans la première aux Corinthiens également. Il avait fait ça, Paul, pour parler des sacrifices, des viandes sacrifiées aux idoles. Il y avait 3 chapitres sur ce sujet. On retrouve la même chose dans l'épître de Jean également. Donc ce matin, Pierre va alterner des instructions, des commandements, et puis des enseignements après pour les soutenir. C'est comme ça qu'il a procédé en écrivant sa lettre. On a déjà eu l'introduction la semaine dernière, la feuille de route qu'il nous a tracée. Hein. Malgré les difficultés, la joyeuse espérance du salut en Jésus-Christ est certaine. Elle est l'œuvre du Dieu trinitaire. C'est pourquoi, soyez saints, vous êtes le peuple de Dieu. Alors voyons pourquoi et comment nous sommes ou nous devons être saints et ce qui concerne le peuple de Dieu. Soyez saints. C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil. Soyez sobre. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 3 exercices de discipline pour commencer. Tenez votre intelligence en éveil. Il n'y a pas de laisser aller. hein. Ceux qui ont connu le pasteur Dovi qui est décédé maintenant, qui était venu nous voir depuis le Togo, il m'avait dit, je signe toujours mes courriers pasteur Dovi. Et je fais ça, et c'est important que je le fasse, parce que chaque fois que j'écris ça, je me remets en mémoire quel est mon rôle, quelle est ma mission dans l'Église, ce que le rôle que j'ai devant Dieu et devant les frères et sœurs. Et ça, à chaque fois que je marque ça, c'est pour ça que je le marque. C'est pas pour me faire valoir, ou je marque ça parce que ça me rappelle et ça me tient en éveil. Tenez votre intelligence en éveil. Soyez sobre. Pas de gaspillage. Hein. On parle de la sobriété énergétique, juste que ce qu'il faut. Soyez de ceux qui, lorsqu'il y a quelque chose, ne boivent pas, parce qu'ils vont prendre la route après pour ramener toutes les personnes qui ont bu dans les fêtes. C'est ça, c'est cette idée-là d'être sobre, d'être parmi ceux qui ne se gaspillent pas, qui ne se laissent pas aller. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pas d'espoir dans la chair, pas d'espoir dans l'homme, mais l'espérance est dans le retour du Seigneur. Et si nous appliquons ce principe-là, de ne pas nous reposer sur les hommes, mais de nous reposer, que notre espoir soit dans la venue du Seigneur, ce sera bien. C'est ce que l'apôtre nous conseille. Verset 14. Un enfant obéissant, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Un enfant obéissant. Enfant obéissant. Alors ça, ces deux mots, ça rime bien, hein. Ça semble que ces mots vont ensemble. Et voilà un défi que Pierre lance à tous les papas et les mamans. Peut-être en 2013, on se dit, oulala, enfant obéissant, hein. Mais Pierre s'adresse pas à des enfants, il s'adresse à des adultes. Un enfant de Dieu obéissant. Alors, je pense que si on désobéit à Dieu, c'est toujours pour obéir à un autre. Pierre expliquera dans la deuxième lettre que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. L'homme est foncièrement un serviteur. Et Satan veut lui faire croire que, tantôt il va lui faire croire qu'il est un moins que rien, qu'il est un bon à rien. Et tantôt il va lui faire croire au contraire, il est un roi. Il est quelqu'un d'important. Mais l'homme est un serviteur, quelqu'un qui va obéir. Et on est champion pour s'imposer toutes sortes de lois qui vont bien vite embarrasser notre vie. Des règles dictées par notre propre désir ou dictées par le désir d'autres personnes auxquelles on fait confiance. Et ça fait « je suis comme ça, je fais ça, je suis comme ça, j'ai besoin de ça ». Ou je dois faire comme ça, ou on entend à moins ça, ou la tradition c'est ça. Je fais ce que je veux. C'est en quelque sorte, du point de vue de la Bible, c'est une folie. C'est une folie tout simplement. À quoi est-ce qu'on obéit en fait? Et donc ici, un enfant obéissant, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois. Il s'agit de changer. Obéir à Dieu comme des enfants. Et je crois que pour ceux, quand on a des enfants, nos enfants nous obéiront. Si nous obéissons à Dieu comme des enfants, nos enfants nous imiteront. 15 et 16. En effet, il est écrit, au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. C'est la citation qui vient de la loi de Moïse, hein, du cœur de la loi de Lévitique, le le livre le plus ardu, au chapitre 11, 45, 19, 1, ça concerne les restrictions alimentaires, ce qui est pur et ce qui est impur, de distinguer là-dedans, et ça concerne également les mœurs, tout ce qui est consacré à Dieu, de se rendre compte de ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire soyez saint? Qu'est-ce que ça veut dire être saint? Bon, pour faire simple, je dirais, c'est être de Dieu. Quand on est de Dieu, forcément, on est saint, parce que Dieu est saint. Dieu nous a appelés et nous sommes en marche vers le Dieu trois fois saint qui nous a appelés. Celui qui vous a appelé est saint et on s'est levé et on marche vers lui. Alors c'est intéressant de lire la première épître de Jean, chapitre 3, versets 1 à 3, où Jean explique bien cette chose-là. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Soyez saints car je suis saint. Verset 17. Et si c'est comme à un père que vous faites appel, à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Et par rapport à ce qu'étaient les Israélites, nous avons plus de raisons encore que d'avoir la crainte de Dieu. Nous appelons Dieu notre Père et un enfant. Vous savez, les enfants, ils craignent leur Père, ils le respectent. Hein. Ils savent qu'il a l'autorité. Parce que nous appelons Dieu notre Père, nous devons avoir la crainte de Dieu. Parce que ce Dieu... Ce Père, ce Dieu et Père est le juge qui ne fait pas de favoritisme. D'autant plus nous devons avoir la crainte de lui. Vous savez, dans les familles de gendarmes, hein, j'avais un ami qui était gendarme et il dit c'était pas facile, hein, parce qu'on doit toujours, on représente le gendarme, nous qui sommes des fils de gendarmes partout où on est, et notre Père attend ça de nous, on peut pas faire ceci, pas faire cela, on est les fils du gendarme. Et, vous comprenez, je pense, ce que je veux dire. Ayez la crainte de Dieu. Notre Père est le juge qui ne fait pas de faveur. Alors, les chrétiens n'ont pas de loi telle qu'on pouvait la trouver dans l'ancienne alliance, comme les avaient les Israélites, mais ils sont tenus à des exigences de sainteté qui sont même au-delà de ce qui était demandé dans l'ancienne alliance. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, nous a dit le Seigneur. Alors maintenant, voici la partie enseignement qui suit ces exhortations, ces commandements. Alors, on a quelques versets. J'ai appelé ça pourquoi cet appel à la sainteté. Et au verset 18, vous le savez en effet. Vous le savez. Parce que Dieu est saint et que je suis son enfant. Oui, je le sais. Vous savez que vous êtes enfant de Dieu. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Et parce que Dieu est saint et que je suis son enfant, je suis appelé à la sainteté. Verset 18. Ce n'est pas par des choses. Vous savez que ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent, l'or que vous avez été racheté de votre manière dépourvue de sens que vous avez transmis vos ancêtres. Nous savons que nous avons été rachetés, on en a parlé encore, on l'a médité, on l'a chanté tout à l'heure. Mais nous avons été rachetés par le sang de Christ, nous savons que le prix était le sang précieux de Jésus. Nous nous en sommes rappelés tout à l'heure. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans le dernier temps à cause de vous. Nous le savons, ça fait partie du plan éternel de Dieu. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Nous savons que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Notre foi repose sur Dieu, sur le Dieu vivant. Ça ne repose pas sur nos performances, sur notre compétitivité. On parle beaucoup de ce mot-là. Il faut être compétitif, il faut être attractif. Non, ça ne repose pas sur cela. Cela repose uniquement sur le Dieu vivant qui a ressuscité Jésus. Voilà pourquoi nous sommes appelés à la sainteté. Est-ce que l'appel à la sainteté est entendu ce matin? Est-ce que vous pouvez ajouter votre amen?
Amen.
Amen. Amen. Oui, Dieu nous appelle à la sainteté. Alors, c'est là qu'on a peut-être un peu de stress. Oula! Comment on va y arriver à la sainteté? Oui, on veut ça. Mais comment on va y arriver? Comment être saint? C'est la suite un petit peu du parcours que je vous propose à travers cet épître. Verset 22. Vous avez purifié votre âme en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous, et ça c'est l'amour agapé, il s'agit de l'amour de Dieu. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Donc nous devenons saints par un vrai amour pour les frères et sœurs. Nous devenons saints par un vrai amour pour les frères et sœurs. Bon, on voit dans cette phrase que la recherche d'une fraternité sans hypocrisie est quelque chose qui conduit les gens à vouloir se purifier, s'approcher de Dieu. La honte, pouvoir effacer la honte sociale, c'était au cœur de la démarche, semble-t-il, de ce que je comprends, du moins à mon niveau, de cette phrase de Pierre ici. Bon, nous, on est plutôt dans la culpabilité, la séparation avec Dieu, le péché. On travaille beaucoup là-dessus, peu importe. On peut se souvenir de la femme samaritaine, de Zachée, des lépreux, de Bartimée, de toutes ces personnes qui se sont approchées de Jésus en voulant retrouver des relations fraternelles, sociales, qui soient sans hypocrisie. L'apôtre demande d'aller plus loin et d'aimer comme Dieu. Jésus nous dit, vous le savez, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Le même amour que j'ai porté envers vous, c'est cet amour-là que je vous demande entre vous. Et voici ce qu'a enseigné l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 13. Romains, chapitre 13, versets 8 à 10. Un beau paragraphe qui s'appelle « L'amour mutuel ». Romains 13, 8, je lis ceci. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne convoiteras pas, et ce qu'il peut y avoir encore, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres, d'un cœur pur. Vous avez purifié votre âme en obéissant à la vérité. Il est question ici d'obéissance à la vérité. L'amour agapé qui vient de Dieu et la vérité marchent ensemble. Il s'agit d'un amour qui est vrai, hein, d'un amour envers le prochain qui est vrai. C'est pas si évident que ça. L'apôtre Pierre va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Je vous laisse une petite illustration. Versets 23 à 25. En effet, et là donc, il passe de nouveau à un enseignement. En effet, pour le justifier, vous êtes né de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Pierre cite le magnifique chapitre de Ésaïe 40 ici. Ésaïe 40. Je vais relire juste quelques petits passages de ce superbe chapitre qui commence ainsi. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Verset 9, « Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Voici le Seigneur est avec lui et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent, qu'on a envie d'être une brebis du Seigneur dans ce passage. » Et ensuite, il va rappeler combien les idoles sont des choses vaines jusqu'à la fin du chapitre. Nous avons devant nous toujours deux paroles. La parole de Dieu qui est immuable, qui ne changera jamais. Et puis la parole des hommes qui est éphémère. Le monde a connu de beaucoup de brillants orateurs, des explorateurs, des théoriciens dans le passé, beaucoup de personnes qui, dont l'histoire petit à petit a oublié, ou dont la gloire a été revue à la baisse après que les années aient passé, hein, et même des fois revue carrément à l'envers. Autant on les adorait, autant maintenant on les voit comme des criminels. Je pensais que ce sera la même chose pour toutes ces théories contemporaines qui nous font souffrir quand on pense à toutes ces lois ou toutes ces trucs, ces directions dans lesquelles on n'a pas envie d'aller. Et ça nous fait mal rien que quand on y pense. Derrière elles, comme derrière tout ce qui vient des hommes, se cachent des grosses idoles, branlantes, incapables de sauver et qui un jour s'écraseront sur elles-mêmes, se fracasseront. Alors, ce qui vient de l'homme est éphémère, mais ce qui vient de Dieu est éternel. Et c'est bien à cela que nous devons nous attacher, à ce qui est éternel. Une semence incorruptible, nous dit l'apôtre, cet évangile est incorruptible. Elle a et elle aura toujours le dernier mot, la parole de Dieu. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse. La ruse, c'est la tromperie, hein. De l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est porter un masque. On est des champions pour porter des masques. On a le visage avec une banane, mais à l'intérieur, c'est différent. Débarrassez-vous donc de l'hypocrisie, de l'envie, hein, jalouser mon frère, jalouser ma sœur, et de toute médisance. La médisance, c'est parler dans le dos de quelqu'un, dire des choses sur une personne alors qu'elle n'est pas là. Blablabla. Vous savez combien on est fortiche pour faire ça, et des fois, c'est le jeu là, on s'assoit sur des chaises, enfin. Ça ne se fait pas dans l'église du Seigneur, mais voilà, sur des bancs, là, allez, on va dire du mal. La médisance, pour le plaisir. Non, débarrassez-vous donc de cela. Cinq ennemis de l'amour. Cinq ennemis de la sanctification. Alors, ces choses-là existent dans l'église parce que Pierre en parle, et parce qu'il est inspiré par le Saint-Esprit quand il le fait. Ces cinq péchés sont à rejeter, et parce qu'elles sont des ennemis de l'amour et donc de la sanctification. Et ces cinq rejets, la méchanceté, la ruse, l'hypocrisie, l'envie, la médisance, les cinq ont pour origine la recherche de la gloire humaine, la recherche de cette gloire qui va passer, qui est éphémère. D'une part, en faisant ça, on recherche quelque chose qui est éphémère, et d'autre part, on trébuche sur le chemin de la sanctification et de l'amour du prochain. Alors, aimons-nous pour de vrai, hein ? Aimons-nous pour de vrai ? Ça paraît évident, mais ça l'est pas. Ça l'est pas. Autrement, l'apôtre Pierre nous aurait pas mis ses injonctions ici, de se débarrasser de ça. Cinq ennemis de l'amour. Le texte suivant. Et comme des enfants nouveau-nés désiraient le lait pur de la parole. Si du moins vous avez goûté, si vous avez mangé, que le Seigneur est bon. Le lait pur de la parole, le lait spirituel qui est raisonnable. Il y a l'idée de quelque chose de raisonnable. Quand on lit la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est raisonnable, qui fait appel au bon sens. La lecture, alors les nourrissons, je ne sais pas combien de temps, de fois, ils prennent le biberon dans la journée. Au début, c'est souvent. 6 fois. Bon, c'est pas donc une fois par semaine. Hein. Non, c'est pas qu'une fois par semaine à la pensée de l'apôtre Pierre. C'est pas donc de se nourrir de la parole de Dieu une fois par semaine. Elle est vitale. Alors combien de temps on passe avec le biberon et combien de temps on passe avec le doigt sur l'écran. Bon, je vous laisse faire la comptabilité. La parole est raisonnable, c'est logikos, là, le mot logique, qui a donné logique en français. Et donc c'est le premier sens qu'on va comprendre qui est le plus important. Pierre n'est pas lettré, et le lait spirituel et pur concerne aussi la communauté, la lecture communautaire. On ne fait pas de la lecture de la parole de Dieu en communauté, c'est dommage, le temps de la pointe, ça devait se faire énormément. L'étude biblique communautaire, je ne sais pas quel goût elle avait, c'est notre étude biblique de mercredi dernier. Quel goût elle avait. Et de l'amour.
On va revenir.
Bon. Et les incontournables sermons du dimanche, hein, qui ne sont pas si incontournables que ça finalement. Voilà, il y a aussi ce qui se passe dans la communauté. qui concerne la parole de Dieu. Donc le moyen d'avancer dans la sanctification, d'aimer de façon vraie et pure ses frères et sœurs. Cette aimer ses frères et sœurs, vraie et pureté, va nous faire avancer dans la sanctification et nous nourrir de la vraie et pure parole de Dieu, va nous faire avancer aussi dans la sanctification. C'est ce qui permettra d'accomplir la loi de Moïse et aller même au-delà. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et maintenant, l'apôtre va faire un focus sur la vie communautaire. La vie, la sainteté personnelle est indissociable de la vie communautaire, parce qu'il nous faut accomplir, pour accomplir le commandement du Seigneur, aimer son frère et son sœur. Mais il faut les voir, il faut les connaître, il faut les fréquenter. Et la vie d'église est donc, en ce sens-là, indispensable à la sanctification. On ne peut pas faire chemin tout seul. On doit faire chemin avec les autres. Donc, le peuple de Dieu maintenant. En effet, approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier ou édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En nous approchant de Jésus, nous nous approchons les uns des autres et nous formons le peuple de Dieu. Donc le temple n'est pas physique, comme avec le temps, à ce moment-là, le temple de Jérusalem existait toujours quand l'apôtre écrit cette lettre, il était toujours en place. Notre temple n'est pas physique, pas besoin d'aller à Jérusalem. Le temple est simplement constitué des pierres de ce rassemblement des saints. Et on n'a même pas besoin d'être physiquement, mais normalement ce rapprochement quand même, il est physique pour que ça fonctionne bien. Alors, comment rendre un culte dans le temple de Dieu, dans ce rassemblement? Qu'est-ce qui se passait dans les temples de Jérusalem et qu'est-ce qui se passe maintenant pour les chrétiens? Eh bien, l'apôtre le dit ici. Laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter. C'est quoi ces sacrifices spirituels? Ces victimes spirituelles. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Et Romains chapitre 12, verset 1, ça fait écho complètement. Je vous exhorte, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre culte, par un culte raisonnable. Voilà, on vient dans l'église et puis on offre nos corps, ce qu'on est, notre membre, enfin, ce qu'on a, ce que Dieu nous a donné, ce que nous avons. Par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, offrir, sacrifier de nos corps, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse le nom de Jésus. Hébreux chapitre 13, verset 15. Voilà une autre façon de comprendre ces victimes spirituelles. Et c'est très beau les chants qui sont chantés en communauté, je trouve, c'est les plus beaux chants, c'est les chants d'assemblée, c'est ceux qui sont les plus porteurs au niveau de l'émotion qu'ils portent. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Là, c'est Paul qui écrit aux Philippiens, Philippiens 4, 18, qui les remercie. Et bien là, il s'agit bien d'argent. Faire des dons d'argent, des sacrifices que Dieu accepte, dit l'apôtre Paul. Voilà trois exemples ici de ces fameuses victimes spirituelles, de ce qu'on offre en sacrifice dans le temple de l'Église. Et donc, les Israélites avaient un magnifique sanctuaire démontable pour pouvoir y voyager avec eux. Mais nous, nous avons beaucoup mieux que cela. Nous avons nous-mêmes. Et puis voilà. suffit qu'on se rassemble et puis suffit qu'on invoque le nom de Jésus. Et voilà, le temple est là pour l'adorer. Alors, un enseignement, pour reprendre un petit peu le rythme de l'apôtre Pierre. En effet, dit-il, en effet, il est dit dans l'Écriture, je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie précieuse. On a chanté le chant tout à l'heure, ça m'a fait tilt. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. N'ayons pas honte de notre Église. Le temple de Dieu est magnifique, il est spirituel, il est solide, il est aligné sur Jésus-Christ. C'est la pierre de tête. N'ayons pas honte de son temple, du rassemblement des saints, même si on n'est pas nombreux le dimanche. N'ayons pas honte de cela. On ne sera jamais confus de se rassembler pour le nom de Jésus-Christ. On n'aura jamais honte de cela. Ceux qui désobéissent à la pierre rejetée, pour ceux qui construisent, est devenue la pierre angulaire, rejetée dans le sens qu'une pierre qui trouve qu'elle n'est pas conforme, non conforme, on la rejette. Et non, c'était une grave erreur. Et parce qu'elle est devenue une pierre qui fait obstacle à un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole, et cela est vrai. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Ils ne sont pas destinés à désobéir. Vous avez bien compris ça la semaine dernière. Ils ne sont pas destinés à désobéir, mais parce qu'ils désobéissent, ils sont destinés à se heurter à cause de la désobéissance. Destinés à se heurter à cause de la désobéissance. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous n'avez pas obtenu compassion. Vous n'aviez pas obtenu compassion. Vous avez maintenant obtenu compassion. La nouvelle alliance est magnifique. Tous rois, tous prêtres, tous lévites, les femmes comme les hommes, avec une magnifique responsabilité, l'évangélisation qu'on annonce par nos paroles et on annonce par notre vie sainte. Là aussi, on voit un remarquable décalage, que chacun est roi, prêtre, lévite, qu'on soit homme, qu'on soit femme. C'est quelque chose de bien différent de l'ancienne alliance. Quel privilège, quelle magnifique nouvelle alliance. Alors la conclusion, comment vivre en chrétien aujourd'hui? C'était un petit peu le fil là. Avec, de rechercher la sainteté par l'amour du peuple de Dieu. Rechercher la sainteté par l'amour du peuple de Dieu. Et soyons des enfants obéissants qui se nourrissent de la parole de Dieu également. Et la vie d'Église est aussi magnifique que ce qu'elle est indispensable. Et nous devons la sanctifier, donner cette place dans nos cœurs, qui, en pensant que le Seigneur, trois fois saint, est au milieu de nous. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'on n'a plus besoin de se tourner vers l'ancienne alliance. La nouvelle alliance est tellement plus belle, tellement plus merveilleuse et tellement plus, comme on dit aujourd'hui, performante, tellement plus, elle nous élève tellement plus haut à cause de Jésus-Christ qui est venu au temps fixé. Sauver ce qui était perdu et accomplir les promesses qu'il avait faites au patriarche. Merci Seigneur pour tout le peuple des Israélites qui ont conservé, porté cette parole jusqu'à la venue de Jésus. Merci parce que nous en sommes bénéficiaires maintenant et nous sommes très reconnaissants pour eux. Nous voulons te dire, Seigneur, de ne pas nous laisser tranquilles sur le chemin de la, sur la question de la sanctification, combien c'est quelque chose qui est important, et combien nos frères et sœurs sont importants aussi. Fais-nous faire des progrès, Seigneur. Ne nous laisse pas nous relâcher, nous endormir et dire du mal des uns et des autres. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.